On compare souvent la résistance bactérienne aux antibiotiques avec le réchauffement climatique. Le phénomène est mondial, il est causé par les hommes et il est urgent de trouver des solutions sous peine de grosses catastrophes. Eh bien, les solutions arrivent. Une équipe danoise publie aujourd'hui dans la revue Scientific Report une étude intéressante proposant de rendre de nouveaux sensibles aux antibiotiques des bactéries multirésistantes. Patrick Plaisia, vous êtes en ligne avec nous pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur du Centre national de référence sur la résistance bactérienne, chef de service du laboratoire de bactériologie au CHU de Besançon. Alors, quelle était d'abord la démarche de ces chercheurs danois pour tenter d'endiguer la résistance aux antibiotiques chez ces bactéries ?
Alors, en fait, ils utilisent une nouvelle technologie qui s'appelle le séquençage de l'ADN à haut débit. Et donc, l'idée, c'est en fait, à partir d'un certain nombre de mutations qu'on peut créer dans le chromosome des bactéries, d'identifier lesquelles de ces mutations donc peuvent sensibiliser ces bactéries aux antibiotiques, c'est-à-dire leur redonner une sensibilité alors qu'elles étaient devenues résistantes, par exemple, à des produits de dernier recours comme la colistine.
Quels sont les types de bactéries qui ont été testées là dans l'étude ?
Alors là, il s'agit d'une espèce qui s'appelle Klebsiella pneumoniae, donc c'est un nom un peu compliqué, mais c'est une espèce qui est essentiellement responsable d'infections nosocomiales.
Alors, l'idée, c'est d'utiliser en quelque sorte les mêmes armes qui ont offert la résistance aux antibiotiques, à ces bactéries, à savoir l'évolution et les mutations génétiques, en fait.
Oui, d'une certaine façon, ça consiste en fait à trouver les moyens de contourner les mécanismes mis en place par ces bactéries pour s'opposer à l'action des antibiotiques et éventuellement de trouver aussi des médicaments qui vont venir par la suite donc aider d'autres antibiotiques pour être plus efficaces sur ce type d'espèces.
En termes de traitement, ça voudrait dire prendre un antibiotique plus un traitement supplémentaire en complément ?
Alors, dans le cas précis de cette étude danoise, donc c'est le cas, hein, c'est-à-dire mettre un adjuvant, en quelque sorte, qui va resensibiliser la bactérie à un antibiotique qui a perdu, par ailleurs, son efficacité.
Oui, Patrick Plaisia, cette stratégie-là que vous décrivez, justement, qui fait l'objet de cette étude, c'est la première fois qu'elle est mise au point. Pourquoi est-ce qu'on n'était pas parvenu avant à le faire ?
En fait, c'est une stratégie qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, mais pour d'autres antibiotiques. C'est-à-dire que, par exemple, une des molécules principalement utilisées en thérapeutique humaine pour lutter contre les infections bactériennes, c'est l'amoxicilline. Mmh. Et donc, un des mécanismes assez courants de résistance à cet antibiotique chez les bactéries, c'est la production d'enzymes qui dégrade en fait l'amoxicilline. Donc, la molécule étant dégradée, elle ne peut plus agir. Et en fait, on utilise depuis déjà plusieurs décennies des inhibiteurs de ces enzymes donc qui empêchent la dégradation de l'amoxicilline.
Vous pensez que c'est grâce à cette méthode qu'on vaincra l'antibiorésistance ? C'est vraiment en essayant de rajouter de la chimie au traitement qui existe déjà qu'on arrivera à bout du problème ?
Non, pas forcément. C'est une stratégie parmi d'autres qui est suivie à l'heure actuelle. Et il y en a d'autres. Hein. Donc il y a d'autres pistes. Donc on continue à explorer effectivement les ressources donc naturelles pour trouver de nouvelles molécules, essayer d'améliorer celles qui sont existantes. Ça c'est on va dire la stratégie qui a été suivie jusqu'à présent. Mais il y a d'autres possibilités.
En tout cas, il y a des enjeux effectivement très très importants pour la santé publique avec ce problème de résistance.
Oui, effectivement, comme vous le disiez, donc c'est un phénomène qui est mondial, donc qui touche tous les pays, il touche l'homme mais également l'animal, puisque les antibiotiques sont largement utilisés donc dans le domaine vétérinaire et dans l'agriculture.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les autres pistes envisagées aujourd'hui ?
Alors donc, parmi les pistes qui sont suivies par des équipes de chercheurs, il y a d'une part la possibilité de développer des molécules qui ne sont pas des antibiotiques au sens propre, c'est-à-dire qu'elles n'agissent pas sur la vitalité des bactéries, mais elles sont là pour, on va dire, neutraliser les mécanismes de virulence, on va dire les facteurs de pathogénicité des bactéries. En gros, l'idée, c'est de les rendre ces bactéries inoffensives et donc, en fait, permettre au corps humain de se débarrasser de ces bactéries sans avoir à les tuer par ailleurs avec des médicaments, donc sans leur mettre une pression de sélection particulière.
Est-ce que les recherches menées en parallèle sur le microbiote et la restauration des écosystèmes bactériens pourraient aussi aider à lutter contre la résistance ?
Alors là, oui, c'est un domaine qui est passionnant et donc qui est en plein essor. Donc on sait par exemple que la restauration de flore complexe comme la flore digestive, la flore intestinale, par différents moyens, donc il y a des processus de transplantation fécale maintenant qui ont été mis au point, donc permettent donc d'éliminer certains pathogènes sans même avoir à utiliser d'anciens antibiotiques. Et ça, c'est uniquement par le biais donc des effets de barrière de ces flores naturelles. Et donc, c'est quelque chose d'assez complexe, hein, puisque donc c'est des équilibres qui se mettent en place donc entre les bactéries et donc qui permettent d'éliminer donc des bactéries qui ne font pas partie justement de ces flores naturelles.
Alors Patrick Plaisia, il y a une autre stratégie dont on parle et qui revient un petit peu en ce moment, c'est celle des phages, les virus mangeurs de bactéries. Pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas plus alors que les résultats sont assez spectaculaires ?
Alors oui, c'est bon, les résultats spectaculaires. Alors c'est pas une stratégie qui est véritablement nouvelle, hein. Donc elle a été développée avant même l'ère des antibiotiques, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Alors il faut savoir que ces virus, évidemment, ce sont des virus qui sont inoffensifs pour l'homme, hein. Donc ce sont des virus de bactéries que l'on trouve largement dans l'environnement naturel. Et donc, dans un premier temps, ils ont été utilisés essentiellement sur des infections superficielles, par exemple des infections de la peau, de muqueuse, et avec des résultats qui effectivement ne sont assez probants, donc notamment donc le traitement de surinfections, de brûlures ou d'escarres, par exemple. La question qui se pose à l'heure actuelle, c'est dans un contexte de pénurie de nouveaux antibiotiques, c'est de savoir est-ce que certains virus de bactéries, donc ces phages, pourraient être administrés donc par voie interne aux patients, donc notamment par aérosol pour les infections pulmonaires ou carrément par injection pour pouvoir éradiquer des bactéries. Il y a des tentatives, hein, qui ont été faites. Pour l'instant, les résultats sont pas si probants que ça. Et il y a un certain nombre de questions qui restent ouvertes quant à l'innocuité de ces phages. Est-ce qu'ils seraient pas susceptibles de modifier des équilibres également de flore, par exemple, ou même transmettre des mécanismes de résistance pour les bactéries? Ça reste à déterminer.
Pierre-Marie Liédot, vous voulez réagir?
En fait, j'aimerais que nos éditeurs comprennent bien un petit peu cette révolution, puisque tout à l'heure vous nous meniez sur le chemin des systèmes complexes, que aujourd'hui le monde, la biologie en fait, est face à, quitte un monde qui était déterminé, une molécule, une fonction, et donc c'est comme ça qu'on a vu les antibiotiques arriver, mais force est de constater que évidemment la nature peut répondre à cette vision trop simpliste, et que maintenant par ces approches de bactéries dans un écosystème, avec autour des phages, avec des champignons. Donc, quand on parle de microbiote, notamment le microbiote intestinal, ce sont des champignons, des bactéries, des virus et des phages qui cohabitent et qui sont en relation avec l'hôte.
Et qui offre de multiples stratégies aussi, du coup, avec cette variété, cette diversité du vivant.
Exactement.
Merci beaucoup, en tout cas, Patrick Plaisia, pour votre éclairage donc sur cette publication et ces pistes, en tout cas, pour la lutte contre l'antibiorésistance. Merci beaucoup à vous. Et puis, Axel, on rappelle à nos amis auditeurs qu'on se retrouve demain à 18h30 pour le premier Facebook Live de La Tête au Carré.
Oui, on se retrouve à 14h pour la une, et après, à 18h30 sur Facebook.
Et on a une petite vidéo, d'ailleurs, pour vous en parler, qui est en ce moment sur le Facebook de l'émission. À demain, Axel. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'activité du cerveau peut-elle continuer après l'arrêt du cœur? C'est la question posée dans une drôle d'étude publiée par le Canadian Journal of Neurology. Des chercheurs ont suivi l'activité cérébrale de 4 patients au moment précis de leur mort. Pour 3 des 4 sujets parfaitement consentants, le cerveau s'éteint un peu de temps avant le dernier battement de cœur. Et pour le quatrième, les détecteurs ont pu mesurer une activité cérébrale pendant près de 10 minutes après que le cœur se soit arrêté. Conscient de l'incohérence de ces résultats avec les connaissances actuelle, l'équipe se propose de renouveler l'expérience et s'avoue pour l'instant incapable d'expliquer ce phénomène observé. Pierre-Marie Liédot, est-ce que vous avez une réponse sur, ce cerveau qui continue à fonctionner?
Ben disons que je suis pas surpris qu'on ait encore des découvertes aussi importantes que celle-ci. Oui. Quand on montre que le cerveau peut continuer à fonctionner, encore faut-il définir ce qu'est la fonction sur laquelle on va pouvoir se focaliser. S'il s'agit d'activité électrique, je suis pas étonné de savoir qu'un cerveau peut encore émettre des impulsions électriques alors qu'on le nourrit plus avec de l'oxygène, parce qu'il y a d'autres façons de produire de l'énergie.
Également dans l'actualité scientifique, la chaleur. Il a fait chaud, très chaud cet été en Australie. C'est une étude de l'ONG Climate Council qui le révèle. En 90 jours, pas moins de 205 records de température ont été battus à travers l'Australie. À Sydney, la température moyenne estivale était supérieure à la normale de 2,8 degrés. Et à Adélaïde, dans le sud-est du pays, la population a passé son Noël le plus chaud depuis 70 ans avec 41,3 degrés. L'ONG met en garde contre les conséquences de ces vagues de chaleur amenées à se répéter de plus en plus fréquemment. La grande barrière de corail en fait notamment les frais. 2/3 de la surface corallienne de sa section nord aurait disparu en 2016 en raison des températures trop hautes. Et puis la première espèce de grenouille fluorescente a été observée. Il s'agit de la rainette à pois sud-américaine avec un teint vert jaune parsemé de pois rouges à la lumière du jour. Elle émet une lueur plutôt bleu verdâtre lorsqu'on la plonge dans l'obscurité. La fluorescence est un phénomène rare chez les animaux terrestres. C'est la première fois qu'on l'observe chez un amphibien. C'est en plaçant l'animal sous une lampe UV que les chercheurs ont remarqué cette lueur particulière. Si les molécules responsables de ce phénomène ont pu être identifiées, il reste à comprendre son utilité. Plusieurs autres espèces de grenouilles pourraient posséder la même fonction. En tout cas, la photo de cette rainette à pois est à découvrir sur la page Facebook de la Tête au Carré.